Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi 30 juillet 2016. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi de la revue de presse, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre mission de la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésien. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministère du Commerce renforce les relations commerciales avec l'Oman par la mission d'achat. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que la peine de mort n'a pas violé le droit international. Le président Joko Widodo demande au ministre Archandra d'attendre la souveraineté énergétique. L'investissement intérieur a augmenté 17,1 trillions rupiah. L'Indonésie participe au Festival de la jeunesse afro-asiatique à Pékin. 44 yachts partiront pour Wakatobi au début d'août 2016. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministère indonésien du Commerce développe toujours le marché de l'exportation par le biais de la mission d'achat. 20 petites et moyennes entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie de North Batinah, Oman, présidée par un membre du Conseil de la Chambre de commerce et d'industrie du North Batinah, Khalid Abdullah Al-Husni, ont rencontré les hommes d'affaires indonésiens à Jakarta pour mener leur mission d'achat. La directrice du développement de la promotion et de l'image du ministère du Commerce, Mary Mariati, a affirmé à Jakarta que la visite de la délégation d'Oman était une étape stratégique et la possibilité d'accroître les échanges et les investissements entre l'Indonésie et l'Oman. Au cours des cinq dernières années, les deux pays ont atteint environ 400 millions de dollars américains en 2011 jusqu'à 2015. Cela indique qu'il y a encore beaucoup d'espace d'utiliser au maximum pour être rempli avec les activités économiques, entre autres dans le domaine du commerce, des services, de l'industrie, de l'investissement et du tourisme. Mary espère que cette mission d'achat peut renforcer la coopération stratégique qui a été établie jusqu'à présent. En tant que partenaire commercial potentiel de l'Indonésie au Moyen-Orient, la croissance du commerce entre l'Indonésie et l'Oman est moins encourageante. Selon les données de l'Agence centrale de statistiques, ou BPS, la valeur totale des échanges non pétroliers entre les deux pays en 2011 jusqu'à 2015 a montré encore une croissance négative de 11,88% par an. La valeur des exportations non pétrolières vers l'Indonésie à Oman dans la même période a montré une tendance positive de 2,85% par an. Cependant, la tendance de la valeur des importations non pétrolières indonésiennes de Oman est négative de 22,50% par an à la même période. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que la peine de mort n'a pas violé le droit international. En ce qui concerne l'exécution des 4 prisonniers du cas de stupéfiants cette semaine, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, a demandé à d'autres pays à respecter la loi en Indonésie. Dans un communiqué de presse tenu à Jakarta le jeudi 28 juillet, Armanata Nasir a souligné que la peine de mort n'était pas contraire au régime juridique international. La peine de mort est un acte fait pour lutter contre le trafic de drogue qui est si rapide en Indonésie. La peine de mort est l'application de la loi. Je dois souligner que la peine de mort n'est pas contraire avec le régime juridique international. En Indonésie, la peine de mort fait partie du droit positif qui est régi par la loi de 1945. Armanata Nasir a déclaré que l'Indonésie était devenue l'un des principaux marchés de la drogue en Asie. Selon les données de l'Agence nationale des stupéfiants, environ 40 jusqu'à 50 personnes sont mortes chaque jour. 4,1 millions de personnes touchées par la drogue et la perte d'environ 63 milliards de rupiahs. Tous les droits et le processus judiciaire des prisonniers à la mort a été donné et conformément au système de justice. Armanata a assuré que le gouvernement avait informé les familles et le bureau de représentation. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Archandra Tahar, a déclaré à Jakarta vendredi, cité par Antara, que le président Joko Widodo lui a demandé l'Indonésie pouvait atteindre la souveraineté énergétique dans un temps pas trop long. Au cours des prochaines années, le gouvernement va augmenter l'approvisionnement en énergie pour atteindre la souveraineté énergétique conformément au programme de Nawacita. Selon lui, il a une équipe compétente et contribuera à la réalisation de la souveraineté énergétique. La politique sera prise sur la base de 3 choses. Tout d'abord, toutes les ressources naturelles devraient, autant que possible, pour la prospérité du peuple. Deuxièmement, la souveraineté énergétique est réalisée via l'augmentation de l'approvisionnement. Le troisième est d'assurer la sécurité juridique aux investisseurs afin de créer la prospérité des populations. Selon le ministre, il assurera le programme de la construction de la centrale électrique de 35 000 MW. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le Conseil de coordination des investissements a noté l'investissement dans le pays au cours de la première 2016 a augmenté de 17,1 milliards de rupiahs par rapport à la même période en 2015. Cela a été dit par l'autre fonctionnaire de BKPM, Azhar Lubis, à Jakarta vendredi. Selon Azhar Lubis, la distribution des investissements nationaux sont réalisés notamment dans 5 secteurs, à savoir l'industrie alimentaire, le transport, le stockage et les télécommunications, les cultures et les plantations alimentaires, l'industrie des minéraux non métalliques et l'industrie chimique de base, les produits chimiques et pharmaceutiques. D'autre part, les investissements étrangers dans le premier semestre 2016 a diminué de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente. L'investissement étranger réalisé a été réparti sur 5 grands secteurs tels que l'industrie du papier, l'industrie de papier et impression, l'industrie de métaux de base, l'industrie métallique, des machines et l'électronique, l'industrie chimique de base, de produits chimiques et pharmaceutiques, matériel de transport et d'autres moyens de transport ainsi que l'industrie alimentaire. L'Indonésie, représentée par 8 jeunes hommes, participe au premier festival de la jeunesse afro-asiatique à Pékin en Chine, afin de promouvoir l'esprit de Bandung, à savoir la solidarité, l'amitié et la coopération dans cette région. Le professeur des relations internationales de l'Université d'Indonésie, Jona Widodo Putri, dans une déclaration écrite, a affirmé qu'à travers ces activités, les jeunes en Asie et en Afrique peuvent canaliser l'esprit de Bandung pour l'avenir de l'Asie et de l'Afrique. L'événement qui a eu lieu pendant 3 jours du 28 au 30 juillet 2016 à Pékin a été assisté par environ 520 jeunes de 40 pays et a été ouvert par le vice-président chinois Li Yuanqiao. Selon Jona Widodo Putri, ces activités sont organisées pour lutter la compréhension et la collaboration entre les jeunes d'Asie et d'Afrique, ainsi que de consolider la coopération mutuellement bénéfique entre l'Asie et l'Afrique et bâtir la communauté de solidarité en Asie et en Afrique. En outre, elle a dit que 10 principes de Bandung produits lors d'une réunion de la conférence afro-asiatique il y a 61 ans était très pertinent et important de développer la coopération entre les deux pays sur ces deux continents. 41 yachts des participants du convoi de voile d'Indonésie 2016 qui sont centrés à Karimata entreront à Wakatobi au début de 2016. Le président de l'Association du tourisme de l'Indonésie, Hugua, a déclaré à Kendari que le convoi de yachts participant de la voile d'Indonésie va entrer en Indonésie, y compris Wakatobi, par 2 ports, tels que par la baie de Kupang, Nusa Tenggara Est, et Sangihe, le nord de Sulawesi. Les participants du convoi de yachts qui entrent par la Sangihe partiront de Singapour, tandis que les participants entrant par Kupang partiront de l'Australie. Dans chaque résidence qui est passée, les participants du convoi de yachts de la voile d'Indonésie seront accueillis avec une variété d'attractions culturelles par les communautés locales. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les divers événements pendant cette semaine sont résumés dans la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Compass le jeudi 28 juillet qui a écrit sur la consolidation politique de Joko Widodo. Le remaniement du cabinet de travail pour la deuxième fois montre la consolidation politique continuelle du président Joko Widodo. Pas encore règne de 2 ans, Joko Widodo et Yusuf Kalla ont produit 2 fois de remaniement du cabinet. Le premier remaniement, le mercredi 12 août 2015 et le second, le mercredi 27 juillet 2016. Le remaniement ministériel 2016 implique 8 ministres remplacés et 4 ministres qui ont échangé leur position. Dans le remaniement maintenant, l'esprit d'accommodement politique rassemble. L'entrée d'Erlangga Hartarto, politicien du parti Golkar, en tant que ministre de la Nuski, et Asman Abnur, politicien du parti de Mandat National, en tant que ministre de la mise en valeur des appareils d'État et de la réforme bureaucratique, est la réponse de Joko Widodo après que le parti du Mandat National et le parti Golkar soutiennent le gouvernement du président Joko Widodo. Avec l'entrée du parti Golkar et le parti du Mandat National, le soutien politique du Parlement contre le président Joko Widodo devient une majorité avec 386 sièges au Parlement, soit 68%. En dehors du gouvernement reste le parti Gerindra qui détenait 73 sièges au Parlement et le parti de la justice prospère, 40 sièges. Le Parti démocratique, avec 62 sièges au Parlement, se positionne en tant que parti dans contrepoids. Selon le journal Compass, toutes les parties espèrent que, avec le soutien d'une majorité au Parlement et le cabinet qui est de plus en plus consolidé, l'équipe économique du président Joko Widodo peut continuer le développement des infrastructures, la réforme de taxes et fiscales et les réformes structurelles. Enfin, rend le bien-être du peuple et la justice sociale. Ensuite, l'éditorial du journal Média Indonesia, le mercredi 27 juillet, a écrit sur la fausse idée de ne pas emprisonner les criminels. Quel genre de justice que ce pays veut si les auteurs de corruption sont proposés de ne pas être détenus? Quel bon sens qui peut accepter le discours que les voleurs d'argent de l'État peuvent être libres sans prison s'ils veulent retourner tout l'argent qu'ils vont voler et démis de leurs fonctions? Quand on dit que le gouvernement était prêt à lutter contre la corruption, en même temps, ils ont même discours contre-productifs. D'une part, on veut renforcer la suppression de la corruption. D'autre part, on fait l'étape d'affaiblissement. Encore plus ironique, il n'est pas un discours ludique. Selon le ministre de coordination pour la politique Luhut Panjaitan, le gouvernement examine le discours pour être roulé d'être une directive. Le gouvernement a même formé une équipe d'examinateurs de la publication d'un règlement du gouvernement en lieu de droit perpou. Apparemment, le gouvernement a oublié que la République est toujours prise au piège dans l'emprise de la corruption. Par conséquent, la lutte contre la corruption est une nécessité. Le gouvernement doit se rappeler que l'un des problèmes les plus importants de lutte contre la corruption aujourd'hui est le manque d'application de la loi. Selon le journal, le plan punir les criminels de corruption devrait être arrêté parce que, à son tour, ceci ne sera pas seulement contre-productif pour la lutte contre la corruption, mais aussi grandement blesse le sens de la justice du public. Si nous sommes d'accord que la corruption est un crime extraordinaire qui doit être éradiqué ensemble, le gouvernement doit arrêter des mesures controversées qui pourraient tuer l'esprit de tous les éléments du pays dans la lutte contre la corruption. Le dernier, l'éditorial du quotidien Republica, le vendredi 29 juillet, a écrit sur l'effort de mettre en succès le 26e activité de Musabaqah Tilawatil Quran, MTQ national. Le 26e MTQ national est lancé à Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Ouest, du 30 juillet au 6 août 2016. Plusieurs 1200 groupes de toute l'Indonésie seront en compétition pour être le meilleur dans le domaine de la science coranique. On souhaite que cet événement bisannuel puisse avoir lieu sans heurts et avec succès. Pour la province Nusa Tenggara Ouest, le 26e MTQ national est un preuve comme centre touristique halal connu du monde. Pour Nusa Tenggara Ouest, c'est la deuxième chance d'accueillir le MTQ national après l'an 1973. Selon le journal Republica, le MTQ national doit être interprété non seulement comme moyen pour rechercher le titre, mais l'arène pour les musulmans d'aimer le Coran et de vivre par ses préceptes dans la vie. Rassurez-vous que cette nation et pays deviendra le pays sûr, développé et prospère si tous les musulmans pratiquent le Coran dans la vie quotidienne. Chers amis, c'était la revue de presse.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, voici aujourd'hui dans l'histoire ce soir, l'édition 30 juillet. On va commencer le 30 juillet 1920, premier Jamboree Scout mondial. Jamboree est une réunion de scouts dans, sous la forme d'un grand champ. Premier Jamboree Scout mondial tenu du 30 juillet jusqu'au 8 août 1920 à Olympia, Londres, Angleterre. Environ 8000 scouts de 27 pays ont y assisté. Cet événement a eu lieu dans une zone de construction ferroviaire verrière de 24 000 m². À cette époque, Lord Robert Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, a été nommé le père du scoutisme mondial ou chef scout du monde. On continue le 30 juillet 1930, l'Uruguay remporte la première Coupe du monde. Lors de la finale de la première Coupe du monde de football à Montevideo, l'Uruguay bat l'Argentine par 4 buts à 2. La France terminera à la troisième place. L'équipe de l'Uruguay, qui joue à domicile, remporte tous ses matchs. L'Italie en 1938, puis le Brésil en 1960, le Brésil en 1970 et 2002 remporteront aussi la Coupe du monde sans perdre un seul match. On termine le 30 juillet 2006, l'élection de la République démocratique du Congo. La population de la République démocratique du Congo, RDC, vote pour élire son président de la République. Ce sont les premières élections démocratiques qui ont lieu sur le territoire depuis plus de 40 ans. La constitution de la RDC a déjà été promulguée en février. L'événement constitue en fait la suite logique de la volonté de transition mise en place en 2003, en visant à mettre fin à des années de guerre civile et de massacres interethniques. Le premier tour oppose Joseph Kabila, président sortant, à Jean-Pierre Bemba, son vice-président. C'est le premier qui remporte la majorité au second tour le 29 octobre. La commission électorale indépendante publiera les résultats le 16 novembre et la Cour suprême de justice les confirmera à la fin du mois de novembre. On continue le 30 juillet 2006, bombardement de Cana. L'armée israélienne et Hezbollah s'affrontent depuis plusieurs jours déjà lorsque des avions israéliens bombardent la ville de Cana. Début du raid est d'anéantir l'une des bases de Hezbollah, mais un immeuble de civils est touché et s'effondre, faisant plusieurs dizaines de victimes, dont des enfants, alors que les souvenirs du bombardement de Cana de 1996 sont encore vifs. La communauté internationale est totalement scandalisée par l'événement. Ces auditeurs, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire ce soir, l'édition du 30 juillet. À demain.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la mise au point et en titre, l'Indonésie invite l'Asie-Pacifique de partager d'informations sur les pêches.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
La pêche illégale ne se passe pas seulement en Indonésie. D'autres pays de la région Asie-Pacifique ont également ressenti les effets négatifs de la pêche illégale. Il faut la coordination et la coopération parmi les pays pour les atténuer. Comme l'a déclaré le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujiastuti, lors de l'ouverture de la conférence ministérielle sur la traçabilité des poissons et produits du poisson à Jakarta, le mercredi 27 juillet. Un certain nombre de ministres et de représentants de 22 pays et 3 organisations internationales ont assisté à la réunion. La traçabilité des poissons et produits de poissons a contribué à briser la chaîne de la pêche illégale au niveau mondial. La certitude sur l'origine des produits de la pêche garantit la sécurité de la pêche mondiale. Ce mouvement vise également d'assurer que les produits ne proviennent pas de pratiques de pêche illégale. Cette question a été soulevée lors de cette réunion ministérielle. Les efforts visant à retracer l'origine des produits de la pêche comprennent la transparence de l'emplacement d'arrestation, les parties qui capturent, l'équipement de pêche, les captures et le traitement et le marché. Un certain nombre de pays d'Asie et du Pacifique ont également ratifié des mesures de l'État du port de ne pas servir et fournir aux navires qui sont responsables de la pêche illégale, de pêche non déclarée et non réglementée. Dans son discours, le ministre Susi Pujiastuti a affirmé l'Indonésie accentue sur 3 questions prioritaires, à savoir les méthodes de pêche et la taille de la capture, l'interdiction de l'utilisation d'engins de pêche qui est dommageable pour l'environnement, tels que le chalutage et la surveillance des pêches. À cette occasion, le ministre des Pêches et de la Sylviculture de Fidji, Osea Naikamu, a proposé l'échange d'informations sur les produits de la pêche qui va entrer sur le marché afin de garantir l'origine des produits de la pêche. Cependant, le ministre malais de l'Agriculture et des Industries à la base de l'agriculture, Ahmad Shabricik, a dit tracer l'origine des produits de la pêche ne sont pas seulement axés sur les intérêts de la sécurité alimentaire, mais tout aussi important pour lutter contre la pêche illégale. La Malaisie est également victime de pratiques de pêche illicite, non déclarées et non réglementées. La conférence ministérielle sur la traçabilité des poissons et produits de poissons était aussi participé par le ministre des Ressources naturelles, de l'Environnement et du Tourisme du pays Palau, Fleming Umi Sengebau, et le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement des régions reculées du Vietnam, Bu Van Tham. Le nombre total de participants est 90 personnes, entre autres de l'Australie, Brunei Darussalam, du Cambodge, de l'Union européenne, du Kenya, de la Malaisie, du Myanmar, de la Nouvelle-Zélande, de Palau, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Norvège, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande, de Timor-Leste, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Vietnam et d'autres pays. La réunion fait partie d'une série de sommets régionaux de pêche 2016 organisé par The Economist le 27 et 28 juillet 2016 au Shangri-La Hotel, Jakarta. Chers amis, c'était la mise au point.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé L'île de Bokori, située dans la province de Sulawesi du Sud-Est.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Sulawesi du Sud-Est a beaucoup de tourisme naturel, notamment le tourisme maritime. Cette province est également l'un des eaux qui a les lieux intéressants à visiter. Entre autres, l'île de Bokori qui se trouve au milieu du vaste océan. Cette île est une belle petite île située dans le quartier de Surupia, Sulawesi du Sud-Est. L'emplacement de cette île est en face du cap Surupia. Cette île était autrefois habitée par l'ethnie de Bajo, fait partie des populations qu'on appelle nomades de la mer. Les Bajo se déplacent alors à un autre endroit. L'île de Bokori est presque noyée par l'érosion côtière, mais le gouvernement continue à faire la construction et rend l'île de Bokori comme l'une des principales attractions touristiques de Sulawesi du Sud-Est. L'île de Bokori est célébrée pour le long sable blanc qui est impressionnant aussi les touristes. En outre, sur l'île, il y a aussi un champ. Lorsque l'eau de mer était à marée haute, le champ sera rempli des eaux de mer, de sorte qu'il ressemble à un lac au milieu de la mer. La beauté, la sérénité et la mer bleue combinées avec du sable blanc font de cette plage comme l'attraction touristique excellente. L'île de Bokori inclut dans la région de Konawe. Il y a deux façons qui peuvent être prises pour se rendre à l'île de Bokori. La première façon est d'utiliser le transport maritime du port de Kendari à l'île de Bokori directement, tandis que la deuxième façon consiste à utiliser le transport terrestre de Kendari au village de Bajo. Du centre-ville au hameau de Bajo prend environ 30 minutes. Ici, beaucoup de gens du pays fournissent des services pour vous amener à l'île de Bokori. Le tarif est aussi assez bon marché, environ 3000 rupiah par personne. Vous avez un service de navette. Ce qui concerne l'état de la route, vous ne devez pas aussi inquiéter parce que maintenant toutes les routes qui sont passées étaient pavées. Si vous avez l'occasion de visiter l'île de Bokori, il y a quelques conseils qui devraient être pris en considération. À savoir, si le temps est ensoleillé, vous pouvez partir assez tard parce que vous pourriez voir un beau coucher de soleil. En outre, sur l'île de Bokori, vous pouvez aussi passer la nuit car il y a déjà des chalets et surtout, ne pas oublier d'apporter un crème solaire, la parapluie et aussi les lunettes de soleil. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir, intitulé L'île de Bokori en provenance de Sulawesi du Sud-Est. Demain, nous nous retrouvons avec un sujet le plus intéressant. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique de l'Indonésie en couleurs.
Ce soir, nous discutons sur la littérature indonésienne. La littérature est un mot de près de la littérature sanscrite, sastra, ce qui signifie le texte qui contient des instructions ou des directives. Dans la langue indonésienne, ce mot est couramment utilisé pour faire référence à une œuvre littéraire ou d'un type d'écriture qui a une signification ou de la beauté spécifique. De plus, dans le sens littéraire, la littérature peut être divisée en littérature écrite et littérature orale. La littérature ne relie pas beaucoup à l'écriture, mais avec un langage qui est utilisé comme un véhicule pour exprimer certaines expériences ou pensées. La littérature indonésienne elle-même peut se référer à la littérature créée dans l'archipel indonésien, souvent aussi largement référée à la littérature donc la langue racine et langue malaise, ou la langue indonésienne et l'un de ses dérivés. Depuis le 19e siècle, il y a des résultats de la littérature de la langue malaise qui n'a pas été écrit par des gens qui sont venus des îles Riau ou Sumatra. Le langage utilisé sera difficile d'appeler pur ou propre malaise. La langue malaise utilisée par l'auteur n'est pas de langue malaise élevée, mais la langue malaise basse ou la langue malaise de marché. Certains examinateurs de la littérature indonésienne ont essayé de faire une périodisation de l'histoire de la littérature indonésienne. Bien que parmi les experts et les chercheurs, il existe des similitudes dans la prise de périodisation de l'histoire littéraire de l'Indonésie, s'il y a des recherches supplémentaires, il semblerait que chaque périodisation montre des différences frappantes, à la fois le thème et la conception. On utilise le thème de périodisation, pas la classe, parce que la classe dans la littérature indonésienne a causé le chaos. La distinction entre une période à d'autres périodes est basée sur des normes communes dans la littérature, comme l'influence des circonstances de chaque époque. Cependant, la distinction entre une classe ou d'autres est souvent soulignée dans la différence de conception de chaque génération. Dans une période, peut-être vous trouverez l'activité plus d'une classe d'auteurs qui ont des conceptions différentes, tandis que l'émergence d'une nouvelle période signifiait aussi l'émergence d'une nouvelle génération avec une nouvelle conception. La différence de la norme générale dans la littérature est une influence de la situation d'une époque qui peut conduire à une nouvelle atmosphère dans la vie littéraire sans la naissance d'une nouvelle conception littéraire formulée par une personne ou un groupe de lettres. Il y a beaucoup d'écrivains d'Indonésie qui ont également lutté avec des traînées d'encre et d'une série de mots dans l'ère du colonialisme. De diverses louanges et réalisations ont été atteintes par les écrivains indonésiens depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant. Les conditions politiques changeant en Indonésie rendent les écrivains vigilants dans leur travail, en particulier lorsque le nouvel ordre. Une série de mots bien disposés peut être considérée comme une menace pour la sécurité nationale à cette ère. Mais le changement des rênes de la direction rend les écrivains indonésiens réémergent d'une longue hibernation. Maintenant, toutes les choses liées à la littérature deviennent une œuvre qui est bien apprécié par le peuple et le gouvernement de l'Indonésie. Bon, cher ami, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidèle attention. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir les amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 900-200 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour ce soir, on va présenter le groupe Cela on Seven. Cela on Seven est l'un des groupes de musique populaire indonésienne qui a été fondé au 6 mai 1996 à Yogyakarta. Ce groupe est composé de Dutar Diat Mojo, chanteur, Eros Chandra, guitariste, Adam Mohamed Subarka, un bassiste, et Anton à la batterie. Pour l'ouverture, nous te racontons dans cette édition écouter une chanson de Cela on Seven intitulée Dan ou E. Thank you. de la chanson Dan ou E, le deuxième single de son premier album intitulé Ceylon 7. La composition de cette chanson est simple et a réussi à faire un nouveau record. Défaire le numéro 1 dans les charts de MTV Empour pendant 40 semaines et également définir la chanson de l'année pendant 2 années consécutives. Ce suiteur, voici la chanson suivante intitulée Jadikanlah aku pacarmu, chanté par Ceylon 7. Bonne écoute. 7. Les auditeurs, vous venez d'écouter la chanson Sebrapa, chanson Jadikanla Aku Pacarmu, chantée par Ceylon 7. Trois albums Ceylon 7 ont été vendus des millions d'exemplaires. Pas étonnant que le groupe surnommé Band de millions d'exemplaires. Le dernier album de Ceylon 7 qui a vendu des millions d'exemplaires ou copies est le troisième album intitulé 7 décembre. Jusqu'à présent, les volumes et ventes totales ont atteint 1,5 million de pièces. Cet album gagne le prix les plus prestigieux. Quatre d'entre eux ont remporté Ami Choice Award 2002, y compris meilleur album, plus haute distinction, trois récompenses sur SCTV Music Award 2003, comprennent le suivi, la première place pour la chanson Common Étonnant. Trois prix à l'Andogra Planet Music en Malaisie en 2003, y compris la catégorie meilleur groupe. Chers auditeurs, avant de terminer notre programme musical ce soir, on écoute Sebrapa Panta, chanté par Ceylon 7 et Kita. Bonne écoute et au revoir.
Seberapa pantaskah kau untuk kutunggu? Cukup pindahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu, hanya kaulah yang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk ku banggakan, hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Lihat ke arah, beri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidup? Bukankah kau meyakinkan di saat aku bimbang?
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.